France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, bienvenue à Chantal Goya qui reprend la scène avec toutes ses créatures, Jeannot Lapin, Bécassine ou Pandy Panda. Une occasion d'évoquer également ses débuts de chanteuse yéyé, sa rencontre avec Jean-Jacques Debout et leur invention d'un véritable musical pour enfants. Chantal Goya ici dans quelques instants, mais avant toute chose, puisque nous abordons la période de Pâques et qu'on fêtera dimanche prochain les Rameaux, commençons par chanter une prière de circonstance, Hosanna, spécialement dédiée à toutes celles qui s'appellent Anna.
Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais hélas, quoi qu'on fasse ou qu'on dise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on cessait de lui répéter « Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle cause, Anna ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, méfie-toi et crois-moi, à force de lambiner, tu verras qu'ici-bas, tout te passera sous le nez. C'est stupide d'être timide. Hosanna, Hosanna, c'est trop bête d'être bête comme ça. Sitôt sa mort, cela va sans dire, ayant fini sa vie de martyr, Saint Anna près du bon Dieu bondit directement au paradis. Mais devant la porte, la pauvrette n'osa pas toucher à la sonnette. Alors, afin qu'elle sonnât, tout le paradis entonna.
Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu. Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux. Parle, cause, Anna, ose, dis quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le.
Et oui, les vers facétieux d'Albert Wilmette dans l'opérette La Haut de Maurice Yvain. Là, vous avez reconnu peut-être la voix d'Aimé Donia dans cet enregistrement de Radio Lyrique dirigé par Marcel Carivène. Et puis, juste avant de retrouver mon invité, un petit coup de chapeau à celui qui nous a quittés voici quelques jours, le 1er avril. Bah oui, Marcel Hamon, lui fêtait ses 90 ans le 1er avril et on le salue très fort. Mais par contre, ce même jour a été celui de la disparition de Caravelli. Vous connaissez peut-être le nom de Caravelli, qui était le roi de la musique symphonique légère pour cordes. Il avait un peu inventé ce qu'on appelait, pas encore à ce moment-là, l'easy listening. En tout cas, il y a beaucoup contribué. Son vrai nom, c'était Claude Vasori. Il avait pris le pseudonyme de Caravelli en référence à la fameuse Caravelle. Il a enregistré beaucoup de morceaux, beaucoup de chansons arrangées pour son orchestre à cordes, ses violons magiques. On le retrouve tout de suite dans Les Enfants du Pirée. Les enfants du Pirée par Caravelli et ses violons magiques, un disque paru comme tous ceux de Caravelli d'ailleurs, enfin les principaux du moins sous le label Versailles. Là c'était en 1960, Caravelli né en 1930, mort le 1er avril dernier. Et d'ailleurs notre ami Serge Elaïc lui consacrera une de ses prochaines chroniques.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps maintenant de retrouver mon invitée, la reine du musical pour enfants. J'avais déjà eu la joie d'ailleurs de recevoir son inséparable compagnon et néanmoins mari, Jean-Jacques Debout, voici quelques années. Et nous avions déjà évoqué ensemble cette invention d'un genre nouveau qui a fait rêver plusieurs générations. Aujourd'hui, elle vient nous en parler elle-même. Je suis très heureux de recevoir Chantal Goya. Chantal Goya.
Bonjour.
Ben voilà, je me sens déjà bien grâce à vous.
Oh,
vous savez,
gentil,
j'adore
merci.
Cette chanson. Cette chanson, elle a une histoire, Pandi Panda.
Oui, elle fait partie de mon spectacle qui était donc en 1984 dans le mystérieux voyage de Marie-Rose.
Oui.
Et je me souviens qu'on était parti à Nice en avion et Jean-Jacques m'avait dit, tiens, j'ai une idée, j'ai envie d'écrire une chanson sur un panda. On n'en a jamais fait, c'est l'animal qu'il faut protéger le plus au monde,
oui.
En plus qui fait partie de tous les animaux qu'il faut protéger. Et puis on est rentré en séance très rapidement. Et Jean-Daniel Mercier, qui était mon arrangeur, qui travaillait beaucoup avec Jean-Jacques,
ouais.
a tout de suite compris le sens de la musique de Jean-Jacques. Et voilà, c'est une chanson intemporelle.
Mais justement,
il y a tellement aujourd'hui aussi.
Il y a cette couleur joyeuse. Moi, je vais vous dire, Chantal Goya, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et pourtant, moi, je ne vous ai pas découverte enfant, comme beaucoup d'autres. J'étais un petit peu trop vieux pour ça. Je vous ai découverte adulte et j'aime vos chansons autant que si j'étais un enfant.
Oh, vous avez gardé votre âme d'enfant,
votre cœur d'enfant. Ça doit être ça.
Oui.
Et je trouve qu'il y a une couleur, justement, rafraîchissante, qui fait du bien dans l'esprit de traîner un peu. Et Jean-Daniel Mercier, il faut le souligner, c'était un grand arrangeur
qui a fait
toutes vos chansons.
Il a fait toutes les arrangements de mes chansons et cette chanson, je me souviens qu'on a fait tout l'arrangement avec tout le grand orchestre au Palais des Congrès, au studio,
voilà.
En bas. Et la voix, quand il pleut, j'ai une voix un peu enrouée. Jean-Jacques était très embêté. Il m'a dit, j'ai une idée, on va appeler Jacques Loussier. dans le sud, près de Draguignan, qui a un château et un studio d'enregistrement, et on va aller enregistrer là-bas.
Le regretté Jacques Loussier, vous avez enregistré chez lui, dans son fameux studio.
Oui, dans son studio avec Patrice Keff, qui était à l'époque son ingénieur du son, et tous les petits chanteurs d'Aix-en-Provence, qui étaient là, qui faisaient Pandi Panda. J'ai dit non, c'est-à-dire Pandi Panda, bien droit. Mais voilà, et puis son château a une histoire, parce que c'est aujourd'hui le château d'Angelina Jolie et de Brad Pitt.
Ah oui.
Et voilà, donc c'est une histoire, parce que j'ai habité longtemps dans ce coin aussi, pendant 10 ans, à Hopes. Et la chanson, figurez-vous qu'elle a plu un jour aux Américains, ils l'ont traduite en anglais et j'ai chanté en Amérique devant à Thanksgiving Day pour l'émission de télévision la plus connue, la plus importante, où j'ai fait en anglais Pandi Panda, A Lovely Child's Bear.
Alors il faut dire que le Palais des Congrès que vous avez évoqué, c'est un peu votre maison parce qu'il y a un fameux donc, studio d'enregistrement tout en bas et c'est là que vous enregistrez
Le plus souvent, j'ai fait tous mes grands albums là-bas.
Voilà.
Je crois que c'est celle qui a fait le plus longtemps parce qu'à l'époque, on mobilisait le studio du Palais des Congrès pendant 3 mois. C'était énorme. Et tous les grands spectacles ont été créés là-bas aussi.
Créés là-bas également.
Complètement. Et je me souviens que quand, par exemple, on avait Le Soulier qui vole, Jean-Jacques montait avec Jean-Daniel Mercier sur la scène du Palais, où étaient les techniciens. Les techniciens faisaient voler le soulier, on minutait le timing du soulier et en bas, tous les violons attendaient pour jouer le thème principal.
Et alors, vous y serez de retour dans quelques mois, en plus, au Palais des Congrès.
Oui, je l'ai fait. C'était une telle folie que, je reviendrai au Palais des Congrès les 5 et 6 octobre. Pour tous ceux qui ont envie de revoir ce soulier qui vole, qui est magique.
Je précise, parce qu'il faut être précis en matière de science goyaesque, le Pandi Panda n'était pas à l'origine dans Le Soulier qui vole. Dans le premier Soulier qui vole, grand spectacle.
Le grand spectacle avait été créé en 1980 au Palais des Congrès.
Voilà.
Et ensuite, en 84, Pandi Panda, donc certaines chansons sont revenues parce qu'elles sont mythiques. J'ai demandé à les remettre pour faire plaisir, nous avons un petit panda qui est tellement adorable. Et quand le petit panda est né dans le parc de Beauval, je connais bien la propriétaire. Je lui dis alors, je vais peut-être être la marraine. Mais elle me dit non, tu ne peux être que la marraine de cœur parce que ce ne sera pas possible. Je dis bon, mais ce n'est pas grave.
Bon, en tout cas, merci, je le disais, d'être avec nous ce matin parce que c'est l'occasion aussi, on aime bien faire un peu l'histoire de la chanson dans cette émission.
Mais bien sûr, je vous écoute souvent.
Revenir, ça me fait plaisir de revenir sur quelques-unes de vos chansons, quelques-unes de vos aventures. Et pas seulement pour les enfants d'ailleurs, parce que vous avez une première vie où il s'est passé aussi beaucoup de choses. Alors je vous propose qu'on remonte ensemble aujourd'hui un peu dans le temps. Tiens, en commençant, je vous dirai pourquoi après avec Petula Clark.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Il fait un temps abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou, gadou, la gadou.
Et oui, vous avez compris, Chantal Goya, c'était pour évoquer vos années de jeune fille au pair chez Mr. and Mrs. Pigs.
Oh là là, mon Dieu, je me souviens, j'étais en Angleterre parce que je voulais passer mes diplômes d'anglais. Que mon père m'avait dit, il n'y a pas mieux que d'être directement dans le pays pour que tu apprennes l'anglais.
Ah oui.
Et évidemment, je m'étais dit, plutôt que d'habiter toute seule, une petite chambre quelque part, autant être dans une famille. Et comme j'adore les enfants, je m'en occupais très bien, c'était très facile pour moi.
Ah oui, mais il y avait du boulot.
Et
hein.
Là, il y avait non seulement du boulot, mais c'était dans une grosse ferme. Et Monsieur Madame Pig, ça, c'est vraiment prédestiné pour eux. Et j'ai vu arriver des cochons qui étaient quatre fois plus gros que moi, des gros cochons de ferme. Ouais. Et moi, avec mes petites chaussures vernis noires, franchement, c'était un peu
dans
décalé.
Dans
la gadoue, complètement, oui.
Vous aimez Pétula Clark?
J'adore Pétula, et puis c'est une amie, et j'ai bien connu Pétula et son Marie-Claude Wolf. Voilà, je l'embrasse très très fort parce que c'est une chanteuse que j'admire beaucoup. Elle a une si jolie voix et cette jolie chanson de Gainsbourg, on était souvent dans les numéros 1 des Carpentiers. Où, voilà, c'est une chanson adorable avec Tony Hatch qui
Tony
a fait
l'arrangement. Merveilleux arrangeur.
Il a fait aussi une chanson pour Jean-Jacques. Il a arrangé Elle est belle mais cruelle d'une manière magnifique. Et là, on retrouve toutes les mélodies de Jean-Jacques comme si elles avaient été faites par des Américains. Or, c'est Jean-Jacques qui l'a composée.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire d'un côté que vous aviez une adolescence et une jeunesse d'une fille de la classe moyenne, voilà, qui part faire la jeune fille au pair, oui, en Angleterre, etc. Et en même temps, vous avez toujours fait des rencontres extraordinaires, même d'ailleurs quand vous étiez jeune fille au pair en Angleterre.
Bah, c'est-à-dire que c'est fou la vie que j'ai eue. C'est fou la vie parce qu'elle a à chaque fois des rebondissements incroyables. Moi, je me souviens que j'avais un petit ami, on se donnait la main, tout bien, tout honneur.
Ah, pas plus.
Et il m'avait emmené chez sa maman et son beau-père. Il m'avait dit, tu verras, c'est un magnifique château. Et je suis arrivée devant le château de Woburn Abbey. Donc lui, c'était le duc de Bedford. Et elle, Nicole Millinère, pardon, une femme adorable.
La célèbre duchesse de Bedford.
Voilà. Et puis là, elle m'a dit, Chantal, on va faire un déjeuner. Vous allez être contente. Vous allez avoir des célèbres acteurs. Je lui dis, mais qui va y avoir? Elle m'a dit, nous aurons Michael Caine à table. Je dis, oh là là, Michael Caine, je ne le crois pas. Nous aurons Terry Stamp et nos quatre fous. Et je lui dis, mais c'est qui les quatre fous? Ben, les quatre fous, c'était les Beatles.
Voilà, comme ça, vous êtes retrouvés à déjeuner avec les Beatles qui commençaient tout juste leur carrière.
Et puis je voulais pas être une fille complètement, comment dit-on, groupie. Alors je me disais, bon, bah, très bien, je vais leur dire que je suis française. Là, ils vont être tellement contents. Et je savais qu'ils aimaient la France et du coup, j'étais la personne la plus importante de la table, finalement. Et puis on n'avait pas d'appareil photo, on pouvait pas avoir de
Ah, il n'en reste rien.
Ah ben non, qui va faire des photos pendant ce temps? Il n'y a pas de photographe à table, c'était un déjeuner intime.
Alors, les voyages, d'ailleurs, ils ont évidemment marqué votre enfance et même votre petite enfance, hein, faut rappeler, puisque vous êtes née en Indochine,
oui,
comme on disait à l'époque, et que vous vous êtes trouvée prise dans cette période terrible où la France était déjà libérée, mais l'Indochine était encore aux mains des Japonais. Il y a eu un soulèvement contre les Français, au cours duquel
Exactement.
Votre famille a failli connaître des moments très difficiles.
Hein. Oui, on était en Indochine, mon papa travaillait dans une plantation de caoutchouc. Ma mère était là-bas, arrivée très, très petite de la Martinique où elle est née. Et je sais que mon grand-père était un des grands chercheurs. Et lui, il avait installé tout le centre anticancérologie à Phnom Penh. Donc c'est pour ça que ma famille est allée là-bas. Et français, issu des Vosges, de Remiremont et du sud-ouest de la France, de Tarbes. Donc voilà, on a un mélange très fort dans la famille. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait donc cette guerre terrible. Mais finalement, nous avons été sauvés parce que les Vietnamiens nous ont expliqué qu'il fallait vite partir, sinon on aurait la tête coupée. Et après, c'est le Viet Cong qui a déboulé. Et moi, j'étais petite et j'étais cachée dans la maison de mes parents, dans la plantation de caoutchouc. Et là, j'ai ouvert la porte parce que je ne pouvais pas être cachée comme ça, prisonnière d'un placard. Ce n'est pas possible. Et j'avais demandé à l'armée d'attacher mon lacet de chaussures. Ce qu'ils ont fait, ils m'ont regardé et ils sont partis.
Ils sont partis. En tout cas, voilà une vie qui commence d'une façon très aventureuse. Et puis, vous vous êtes donc retrouvée avec votre famille, finalement réfugiée, si on peut dire, à Paris, retrouvant vos grands-parents. Petite fille à l'école, déjà très populaire auprès de ses petites camarades.
Oui, j'étais au Courbeaucier. Ma mère voulait que j'aie soit une école religieuse. Elle m'avait fait une jupe en papier crépon, ce qui n'avait pas les moyens de me faire une jupe en serge bleu marine. Mais je trouvais ça génial. J'étais la seule à l'avoir. Donc, je me différenciais de tout le monde. Mais voilà, j'étais rue de Paradis. J'ai dit à maman, c'est formidable, on est déjà rue de Paradis, c'est génial. Mais j'ai connu Paris toute petite et je regardais les cheminées parce que nous, il n'y avait pas le Père Noël en Indochine. Donc je regardais, je dis, il va peut-être sortir d'une cheminée. Et pof, je prenais un réverbère dans la tête parce qu'évidemment, je ne voyais pas le réverbère qui était devant moi. Alors avec mon petit frère, on venait plein de bosses, plein de... Voilà, c'était la vie qu'on menait. On était heureux quand même.
Et vos premières musiques marquantes, c'est notamment, je dirais, Brassens, Trainet.
Trainet, Charles Trainet, parce que ma mère l'aimait beaucoup. Et moi, après, dans les années qui suivent, vers mes 14 ans, c'était Édith Piaf, J'adorais Milord, Allez venez Milord. Oh là là, je disais, qui c'est ce Milord? J'aimerais bien le connaître. Je comprenais pas que c'était une chanson.
Et quand Margot dégrafait son corsage?
Oh bah alors là, c'était, il fallait ça surtout pas en parler dans la famille, parce que toute ma famille avait été voir Brassens à Remiremont où il passait au théâtre. Et la grande histoire, je disais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce corsage que Margot dégrafait? Donc il parlait de tout ça. Et puis d'un coup, il y a Chantal qui arrive, on ne dit plus rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était un grand mystère pour moi.
Alors, on va...
Ça et le gorille. Voilà, il y avait et le gorille.
Évidemment, c'est pas très bien vu non plus. Voilà, dans les familles.
Voilà.
Bon, bah, comme on a une bonne discothèque à Radio France, Chantal Goya, on a aussi ressorti, évidemment, je ne sais pas si vous l'aimez bien ou pas, mais écoutons-le, oui. Votre premier titre.
Ah oui.
C'est Pierre Bernard le plus vénard de la bande, car depuis qu'il a eu son bac, quelle chance, c'est pas en lui, on t'a acheté une voiture avec laquelle on s'amuse bien, je vous jure. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande, sous la fenêtre il nous klaxonne pour nous prendre, les parents crus, les portes claquent, mais qu'importe, on est pressé, Bernard attend à la porte.
C'est ainsi c'est qu'après Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Sheila, apparaît la nouvelle vedette Yéyé en 1964, c'est Chantal Goya.
C'est-à-dire que moi j'ai accompagné Jean-Jacques pour voir rencontrer Daniel Filipacchi et mon idée c'était d'être journaliste surtout. Oui, et je m'étais dit Daniel Filipacchi étant tellement important au point de vue de la radio, la presse, que peut-être que j'aurais un petit boulot. Et quand il m'a vu, il a dit « Ah non, mais Jean-Jacques, tu pourrais pas lui faire une chanson ?» Enfin, Jean-Jacques l'avait rencontré parce qu'il venait d'écrire pour Sylvie Vartan « Tous mes copains » et pour Johnny « Pour moi, la vie va commencer ». Donc, je m'étais dit, moi, je vais peut-être faire un petit stage chez lui en tant que journaliste. Et pas du tout. Quand il m'a vu, il a demandé tout de suite de me faire des chansons. Il voulait être producteur. J'étais affolée. Moi, je dis, bah, zut, alors j'ai perdu mon truc. Mon rendez-vous, il est raté. Et dans la rue, il voit un petit garçon. Tu t'appelles comment? Bernard. Et ça me donnait l'idée de faire cette chanson. Et moi, j'étais
comme
effarée.
Ça, voilà.
Ah, ben oui, non, mais j'ai dit, Jean-Jacques,
Bernard.
Je rencontre les Beatles. Tu me fais faire chanter ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Daniel l'a mis sur la platine de sa radio. Et ça a vendu une folie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en France? C'est pas possible qu'ils aiment des chansons pareilles. Et puis finalement, grâce
vous
à cette chanson. J'avais
pris goût en fait.
Non, mais c'est surtout que grâce à cette chanson, j'ai été reconvoquée par Daniel qui m'a dit écoute, tu viens de faire une télévision avec, t'avais des gros plans, quelqu'un a remarqué ton visage en 2 minutes.
Et c'était voilà. Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard, donc le cinéma.
Alors on va revenir à la rencontre avec Godard, mais voilà, vous avez évoqué évidemment le fait que Jean-Jacques. Écrit pour vous cette chanson. Alors revenons bien à Jean-Jacques, ce Jean-Jacques, au cours d'un passage à Paris. D'ailleurs, pendant vos séjours en Angleterre, vous le rencontrez dans une soirée.
Oui.
Il vous sort cette tirade extraordinaire. Alors lui, il est avec les jeunes vedettes yéyé déjà à la mode. Hein, vous êtes inconnu.
Mais lui, il chantait les boutons dorés, c'était une grosse vedette.
Voilà, gros succès. Et il vous voit, et il vous dit... J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Vous et moi, on se mariera. On aura 2 enfants. Vous serez célèbre vers 30 ans et vous chanterez à l'opéra.
Voilà. Et moi,
c'est la première phrase qu'il vous a dit.
Je me suis dit, mais quel dragueur celui-là, c'est pas possible. En attendant, je voyais qu'il était plus de minuit parce que chez moi, là, l'exactitude était obligatoire. Donc je me suis dit, oh là là, je vais être en retard, papa, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Et je lui ai dit, si vous habitez dans le coin du 20e arrondissement, j'habite rue Pelleport. Il m'a dit, moi je suis à Saint-Mandé, je vous raccompagne si vous voulez. En tout bien, tout honneur, Je lui ai donné mon téléphone, me suis trompée de numéro. Moi, je suis partie en Angleterre après, je retournais en Angleterre et lui, il est reparti dans son coin.
Mais d'ailleurs, vous êtes couru après d'une façon bizarre pendant quelques temps, parce que lui-même vous a donné des rendez-vous où il n'allait pas.
Oui, donc j'ai laissé tomber. Et puis un jour, en revenant d'Angleterre, j'ai traversé la rue pour aller au drugstore aux Champs-Élysées. Je suis tombée nez à nez avec Jean-Jacques, qui m'a dit « Oh mon Dieu, mais j'ai écrit une chanson en pensant à vous. » Il venait d'écrire, nos doigts se sont croisés, qu'il allait jouer pour la chanter pour la Rose d'Or, la première Rose d'Or d'Antibes.
Et il a gagné.
Et encore, il m'avait donné rendez-vous, il était parti.
Voilà, il était parti dans le midi, vous avez dit « Je te laisse un billet d'avion
». Non, il m'a rien dit du tout. Sa maman m'a dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ?» Je dis « Je viens voir Jean-Jacques, on doit partir ensemble. » Mais non, il est parti ce matin. Et comme la veille, il m'avait fait rencontrer la maman de Michel Legrand, notre merveilleux Michel Legrand. Je me suis souvenue de son numéro de téléphone. Elle partait à la Rose d'Or. Elle m'a dit « Si vous voulez, je vous emmène tout de suite ». Bon, je me dis « Quelle aventure ? » Je vais y aller en voiture, on verra bien. Mais moi, j'avais fait un gros mensonge à mes parents. J'avais dit que j'allais chez une copine en week-end. Donc, j'étais tellement affolée. Mais je me disais « Tant pis, je suis partie là, pour le week-end. Je ne peux plus rentrer chez moi. »
Et visiblement,
et puis, j'ai retrouvé Jean-Jacques. Et puis voilà, on s'est retrouvés, on ne s'est plus quittés.
Mais vous êtes peut-être le couple qui s'est le moins quitté de l'histoire du showbiz.
On est toujours ensemble. J'ai dit toujours pour les médias, j'ai dit 40 ans de carrière, 40 millions de disques vendus, le même mari depuis 50 ans, voilà. Et la même tête, les mêmes cheveux, les mêmes robes. Et en avant.
Et pourtant, le soir de votre mariage, il est quand même allé au théâtre voir Luis Mariano, oui, au lieu de rester à la réception.
Parce qu'il y avait un dîner, il m'a dit comment faire. Enfin, il m'avait mis un petit mot. J'ai Luis Mariano qui m'invite à dîner, il voudrait que je fasse une chanson, c'est un tel honneur, ce qu'il a tellement mis Luis Mariano. Et je me suis dit en moi-même, c'est pas grave, le bébé est déjà fait, alors c'est pas grave du tout. Ça, c'était très simple dans ma tête.
Bon, ben on va l'écouter, Jean-Jacques Debout. Mais alors, il y a une chanson que vous aimez bien, je crois, c'est les rues de Paris.
Oui, j'aime bien parce que ça me rappelle Paris. C'est une belle chanson qu'il a écrite.
Voilà.
Aussi, j'adore cette chanson.
Et ça, c'était en 1990.
Voilà.
Les rues de Paris qui défilent aujourd'hui devant moi me rappelle ainsi les balades en moto avec toi. Quand tu me serrais dans tes bras jusqu'au bout de ta rue et que l'on s'embrassait ému devant les passants inconnus. Les rues de Paris qui défilent au hasard de leur nom gardent le secret bien fragile de nos jeunes prénoms. Les rues de Paris, des lycées, des premiers rendez-vous. Je vous revois comme avant et je pense à vous. Les saisons s'en vont et puis reviennent comme le temps d'un premier amour. Et j'espérais que tu te souviennes bien plus longtemps de ce premier jour. À Saint-Michel, près de la fontaine, on s'est vu de plus en plus souvent. Je te trouvais de plus en plus belle et je n'ai pas vu passer le temps. Les rues de Paris qui défilent me remettent en mémoire les grands défilés d'héros qui ont servi l'histoire. Les rues de Paris, une nuit, ont sorti leurs mouchoirs dans la chaleur d'un mois de mai, au son d'un espoir qui chantait. Les rues de Paris qui défilent ont des noms de poètes.
Jean-Jacques Debout, les rues de Paris. Jean-Jacques Debout qu'on salue évidemment ici à France Musique.
Et vous écoute, hein ?
Il écoute, ah oui.
Ah oui, toujours très fervent.
Assez régulièrement, ça fait plaisir aussi. Et on sait combien il est indissociable, vous êtes indissociable l'un de l'autre, à commencer d'ailleurs par votre nom de Goya. Hein.
Oui, on était chez des amis dans le sud de la France. Mon père m'avait dit, tu sais, si tu chantes, si jamais ça marche pas, t'en supplie, ne t'appelle pas de ton vrai nom, parce que si ça marche pas, de quoi on
aura l'air.
Mais nous, on n'était pas fait pour faire des carrières dans la famille. Mon père, la chanson, c'était à la radio, et puis c'était France Inter et Général de Gaulle, on va dire. Vous voyez, c'est tout. On n'allait pas plus loin. Bon, mais en tout cas, j'ai dit, papa, il faut pas s'inquiéter, je vais changer de nom. Et j'étais chez des amis à Biarritz, et chez Guy d'Arcan, qui était une personne fabuleuse.
Grande personnalité.
Grande personnalité. Ouais. Et dans le salon, il y avait un vrai Goya.
C'était, vous n'étiez pas la seule invitée, c'était pas mal.
Oh
hein.
Là, il y avait du monde. Hein. Il y avait Frank Sinatra, oui, il y avait des gens très... Oh bah oui, oh, bah, alors là, chez eux, c'était toujours des... On se retrouvait tous comme ça, comme si on s'était toujours connus.
Ah oui.
Et il y avait au mur un très beau Goya, un vrai Goya. Et il y avait un petit garçon qui avait une collerette blanche, comme le fait si bien ce grand peintre, et qui me ressemblait un petit peu.
Ah,
et il m'avait
voilà.
dit, elle devrait s'appeler Chantal Goya, ta femme, voilà. Et c'est comme ça que c'est venu.
Et lancé donc par ses premiers succès, vous devenez aussi l'ami de toute une génération d'artistes, à commencer par Johnny et Sylvie, qui sont tout de suite devenus des proches.
Hein. Oui, Johnny et Sylvie, c'était d'abord les amis de Jean-Jacques. Voilà. Jean-Jacques a connu Sylvie, elle avait 15 ans, par son frère. Et Johnny, il l'a connu, il n'était même pas connu. Jean-Jacques a connu Johnny, il était vraiment un garçon tout jeune qui écoutait... de la musique, des guitares d'Elvis Presley, on va dire.
Ah ouais.
Mais il me les a fait rencontrer. Et en plus, Sylvie et moi, on a beaucoup sympathisé. En plus, on a eu nos enfants ensemble. Elle attendait David, qui est né en août, et moi, Jean-Paul est né en juin. Donc, vous voyez, on était très proches à cette époque.
Et au moment de votre mariage, donc en 1966, vous aviez une maison très bohème près de Paris où tout le monde défilait, tous les copains.
Oui, c'est-à-dire que quand on est revenu de la Rose d'Or d'Aix-en-Provence, des vacances, on a décidé de vivre ensemble et de louer une maison à Nogent-sur-Marne. Je me souviens, rue Jean Soulès. Et la maison, c'était la maison des amis aussi. Alors, Roger Dumas, on l'avait rencontré, je me souviens.
Ah voilà, c'est important, Roger Dumas, parce que c'est le parolier de beaucoup aussi de vos chansons.
C'est-à-dire
hein.
que d'abord, c'est un ami de Jean-Jacques. Il s'était marié avec Marie-Josée Nat, qui était une amie de Jean-Jacques. Donc, c'est une vieille amitié depuis toujours. Roger était comédien, n'écrivait pas de chansons à l'époque. C'était quand il était à Nogent que Jean-Jacques lui a dit « Pourquoi on n'écrirait pas des chansons ensemble ? Je vais te montrer comment on fait. » Et les premières chansons qu'il a écrites, c'était pour Georgette Lemaire, « Vous étiez belle madame ».
Bien
et
sûr.
Puis d'autres chansons, et pour moi aussi. Et puis Roger, il a une plume qui est merveilleuse, parce que c'est un auteur, il est littéraire. Du reste, quand il a fait la chanson du lapin, vous entendez « Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer, au bois de morte fontaine, vent à meurte saison ». C'est des choses qu'on ne peut pas écrire comme ça, il faut être très littéraire. Donc il avait écrit des chansons avec Jean-Jacques, ils ont écrit ensemble pas mal de choses, et puis il vivait à la maison, et il était tellement surpris de voir que tout ce que j'essayais de faire, j'y arrivais, et qu'eux qui étaient des vrais comédiens... Alors il y avait à la maison de temps en temps Richard Bohringer, il y avait Roger, et Roger faisait très bien la cuisine en plus, alors c'était génial. Et puis il y avait Claude Berry, qui à l'époque était un petit peu avec Marlène Jobert. Mais vous voyez, tous ses amis étaient là, c'est des amis de longue date de Jean-Jacques, et puis il y en avait un qui arrivait, qui était un jeune militaire, qui venait écrire des chansons avec Jean-Jacques, c'était Pascal Sevran.
Pascal Sevran.
Mais
voilà.
Oui, et moi je le ramenais dans ma petite Fiat 500, je me souviens. Oh, on riait, mais on riait tellement.
Et donc, au même moment, vous vous retrouvez aussi vedette féminine de Masculin Féminin,
voilà.
Le film de Jean-Luc Godard qui vous a donc vu chanter une chanson à la télé.
C'est bien Bernard le plus vénard. Et puis tout d'un coup, me voilà pas projeté dans son prochain film qui était donc ce
Masculin Féminin.
Hein. Voilà, Masculin Féminin, ce film mythique avec Marlène Jobert et Jean-Pierre Léo.
Alors, ce qui est génial, c'est la façon dont il vous faisait tourner. Par exemple, pour créer un effet de surprise dans une scène particulière du film, vous êtes avec Marlène Jobert et puis il y a quelqu'un qui va arriver et il vous a pas dit qui c'est.
Ah ben non,
parce qu'il veut créer la scène.
Oui.
Dites-nous.
Alors, la première séquence, on est Porte de la Villette. Alors, déjà, il n'y a pas de maquillage. Heureusement qu'on avait les cheveux bien lisses et bien brillants. Et on est installé au café. On prend un café tous les trois avec Jean-Pierre Léo que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais des 400 coups, évidemment. Et Marlène. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on voit arriver? Brigitte Bardot en personne. Je dis, oh, Bardot! Mais tellement ahuri et tellement incroyablement ahuri que c'était la scène qu'il voulait.
Mais au lieu de vous faire jouer la surprise, il a vraiment créé la surprise.
Il a créé et sa scène, la première prise qui était bonne. Hein. On n'a pas recommencé trois fois. Il m'a dit, j'ai tourné, ça y est, vous pouvez rentrer chez vous. Je dis, quoi, c'est ça le cinéma? On reste que 3 minutes? C'est pas possible. On avait nos vêtements à nous. Hein. On n'avait pas des vêtements pour le cinéma. On avait nos robes et nos vêtements à nous.
Voilà. Et dans le film, il y a aussi quelques chansons.
Alors il a passé tout son film, il l'a martelé avec plein de chansons. Oui, voilà. Il y avait beaucoup de chansons. Il a illustré, avec des chansons de Jean-Jacques.
Comme celle-ci, voilà, qui est paroles et musique de Jean-Jacques Debout.
Oui.
D'abord, dis-moi ton nom. Je te dirai le mien. Partons loin d'ici. Nous parlerons plus loin. Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai rencontré. Je ne veux pas qu'on dise que tu m'as embrassé.
ma mère le savait, je me ferais attraper. Et mon frère, où j'irais, viendrait me surveiller. Alors tu comprendras que pour se retrouver, il n'y a qu'au cinéma où l'on puisse se cacher. D'abord, dis-moi ton nom, je te dirai le mien. Et partons loin d'ici, nous parlerons plus loin. Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai rencontré. Je ne veux pas qu'on dise que je
D'abord, dis-moi ton nom, Chantal Goya.
C'est fou, hein, cette ambiance totalement des années 60.
Ah, vraiment,
hein, complètement
est, oui, là,
en plein dedans, avec les chœurs. Et c'était la génération, comme disait Godard, la génération Coca-Cola et Karl Marx.
Voilà, c'est fou, ça. Hein. C'était à la fois l'engagement et l'Amérique.
Oui, oui, puis lui, il était tellement heureux de tourner avec des jeunes parce qu'il avait dit, moi, je reconnais toute la jeune génération d'aujourd'hui, comment elle est, comment elle vit, ce qu'elle représente.
Il faut dire que, d'ailleurs que vous avez failli faire une vraie carrière de cinéma, si je peux dire, avec plein d'occasions manquées, avec Hitchcock par exemple.
Bah, Hitchcock, j'attendais ma fille, on était en plein mai 68, et ouais. Clarisse est née en juillet, j'étais rue des Saints-Pères, et j'étais avec Sylvie à la maison qui m'aidait, Sylvie Vartan, et Jean-Jacques m'amenait tous les blessés du boulevard Saint-Germain. Mais on ne peut pas être des infirmières quand même, moi je vais accoucher dans le salon à la fin. Et tous les gens qui prenaient un pavé, ils arrivaient chez moi directement. Alors moi j'avais le mercurochrome, le pansement, enfin... C'était bien du Jean-Jacques, tout ça. Mais, c'était.
Et Hitchcock, donc?
Hitchcock, j'étais enceinte de Clarisse. Je lui ai dit non, mais c'est pas possible. Vous savez, j'ai une telle admiration pour vous. Mais vous devriez y prendre Claude Jade. Elle est formidable. Alors, tout le monde me disait, mais on donne pas comme ça le nom d'une copine. En général, les artistes, ils gardaient bien leur. Enfin, ils disaient pas, prenez une autre à ma place. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Puis après, j'avais expliqué aussi que je voulais pas embrasser un garçon, ni coucher avec lui dans les films. Alors, comme ça, ça réduisait les rôles.
Ah oui, ça limite quand même les rôles.
Et que même, j'étais un jour en Allemagne. Et on m'a fait tourner un film avec des Allemands et on m'a dit votre partenaire va arriver. Qu'est-ce que je vois au fond d'un bois? Un garçon qui était épouvantable, qui avait une mèche comme Hitler et la même moustache. J'ai dit, ah non, moi je tourne pas avec lui. Hein. Et je suis partie, il n'y avait plus de film. Il m'a dit, mais vous rendez compte, il n'y a plus de film. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il aurait vu la tête qu'il a? Non, c'est pas possible. Je m'en vais.
Alors, voilà. pas de carrière au cinéma, mais ça a failli. La grande carrière de chanteuse yéyé, ça a commencé, mais au fond, vous avez préféré vous occuper de vos enfants dès qu'ils sont arrivés.
J'étais une maman très jeune, en fin de compte. Et quand on est une maman très jeune, c'est vraiment le plus beau, la plus belle chose au monde. Hein. Et donc, j'avais mes enfants et j'étais à la campagne. Et je m'occupais d'eux totalement, de Jean-Jacques. Mais je ne pensais pas faire une carrière du tout. Et je m'étais dit, au contraire, mon but principal, c'était de faire arrêter l'autobus qui allait à l'école, qui ne s'arrêtait pas devant chez moi. Et je m'étais au milieu de la rue en pyjama. Je dis, arrêtez-vous, prenez mes enfants, ils sont là. J'ai 3 km de moi à faire. On ne peut pas faire ça aujourd'hui, hein. C'est impossible.
Donc vous avez délibérément mis votre carrière entre
parenthèses. Oui, puis moi dans ma tête, je croyais que c'était fini, donc c'est fini.
Voilà.
Parce que je ne savais pas qu'on pouvait prolonger des contrats ou continuer, avoir des avocats qui... Bon, je ne savais pas que ça existait, tout ça.
Oui, mais Jean-Jacques, il était à fond là-dedans.
Ah ben lui, il était dans ses chansons, il faisait des tournées. Oui. Il faisait des tournées avec Europe numéro 1, il faisait des tournées avec toutes les stations qui faisaient des grosses tournées à l'époque.
Voilà. Et pourtant, quand même, à ce moment-là, vous avez été rattrapé, si j'ose dire, encore par le succès d'une chanson mondiale, pour le coup, que vous n'attendiez pas.
Oui,
c'était Une écharpe, une rose.
Cette chanson, elle a été écrite par Jean-Jacques. Il a fait une ballade. C'était un peu les jolies ballades qu'on chantait à l'époque. Et dans la rue, j'étais pas loin de chez RCA, qui était avenue Friedland, à Paris.
Oui.
Et un Japonais s'arrête et me dit « Oh, where is RCA ?» Moi, j'étais tellement fière de parler anglais. Je lui dis « Next street », enfin, j'explique tout. Et je lui dis « Tenez, je vais recevoir mon disque, je vous le donne. » Et à ce moment-là, Philippe Aki, un mois après, m'appelle et me dit « Est-ce que tu veux que je te montre quelque chose ?» Et là, il avait le Cashbox, c'est-à-dire le journal mythique de la profession du monde entier. Et au Japon, il y avait marqué numéro 1 « It's now or never » Elvis Presley. Numéro 2 « I can get no » Les Rolling Stones. Et numéro 3, Chantal Goya, une écharpe, une rose. Je lui dis, mais comment ça se fait? Bah oui, pas mal. Surtout que j'ai jamais été au Japon. Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis, bah, je sais pas, j'ai donné mon disque à un Japonais il y a un mois. Il me dit, attends, Chantal, il est propriétaire de 40 chaînes de radio. Il a passé toute la journée ta chanson et voilà.
Et voilà.
Et j'ai jamais été au Japon.
Et même après?
Non, toujours pas. Vous savez, moi, je bouge que pas non plus parce qu'il y a une chanson qui marche que je vais aller les voir. Hein.
Bon,
non,
bah, non, on va écouter. C'est pas comme ça. On va écouter Une écharpe, une rose.
Elle est jolie, alors, cette chanson.
Voilà, la version originale que vous aviez
enregistrée. Bouchetti qui avait fait l'arrangement.
Avec Jean Bouchetti, grand chef d'orchestre de variété aussi.
Très important.
Là, pour le coup, c'est le duo Roger Dumas.
Oui, c'est la collaboration de Roger et Jean-Jacques. Et c'est très joli parce qu'ils avaient, ils étaient très complices tous les deux et ils ne travaillaient jamais l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ils travaillaient ensemble au piano, Jean-Jacques et Roger avec ses textes et Jean-Jacques essayait avec la musique et Roger changeait. Enfin, c'est une très belle collaboration toujours.
Alors, je voulais vous dire, Chantal Goya, j'ai l'impression depuis longtemps que vous devez être la personne la plus gentille au monde.
Ben oui, je ne suis pas compliquée.
Mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu un jour votre entretien avec Raphaël Mesrahi, qui faisait des interviews truquées, et la plupart des interviewés réagissent plus ou moins bien, et vous, pendant toute l'interview, vous essayez de l'aider, alors qu'il est absolument lamentable, vous essayez de l'aider à poser les bonnes questions, à faire son métier, qu'il rate pitoyablement, mais c'est le jeu, mais vous le savez pas, et vous êtes d'une bienveillance, mais extraordinaire.
Ben, je veux pas l'enfoncer, je me disais, le pauvre, si ça commence comme ça, il faut quand même que je l'aide, et je vais pas l'enfoncer, j'aime pas enfoncer les gens, j'aime pas parler mal d'eux, et évidemment, j'avais pas compris que c'était...
Vous vous rappelez la rencontre?
Oui, je me souviens, c'est vrai.
Mais là, on voit les personnalités qui apparaissent.
Ah oui, on voit la vraie personnalité. Mais je me souviens qu'un jour, on avait une émission tous les deux.
Il y en a qui sont très méchants avec lui.
Oui, voilà. Parce qu'ils ont des égos trop surmontés. Moi, j'ai pas d'égo, alors franchement. Je me connais pas,
ça.
Moi. J'ai pas d'égo. Non, puis tout ce qu'on peut dire sur moi, ça glisse. J'ai une robe en toile cirée, donc ça glisse. Mais il était très gentil. On allait chez des gens pour faire une soupe. Je me souviens, une soupe de légumes.
Ah oui.
Et ben, moi, j'étais une des rares. Oh, qu'est-ce qu'on l'aime. Venez faire la soupe de légumes chez moi. Je dis, bah, zut, alors, je croyais qu'ils allaient nous virer. Pas du tout. On est plus chez les. Tu vois, moi je te l'avais dit.
Ah bah écoutez, en tout cas, voilà.
Non, mais ça, quelqu'un que j'aime bien, beaucoup.
Très,
oui.
très plaisir de rencontrer des gens comme vous. Et alors, cela dit, voilà, de succès en succès, et puis après, même dans ces années où vous avez choisi plutôt de vous occuper de vos enfants, les choses n'étaient pas toujours simples, parce que votre mari, notre cher Jean-Jacques Debout, alors, c'est un personnage très, très fantasque, très imprévu par certains côtés, par exemple, qui adore acheter des maisons qui lui plaisent, mais même s'il n'a pas forcément l'argent, etc. Vous êtes toujours lancé dans...
Au début, on avait acheté une maison qui ressemblait à une grande gendarmerie près de Houdan.
Oui.
Et il a quand même rajouté 2 tours, comme ça, ça avait le château du village.
Et il les fait reconstruire en général,
oui,
voilà.
Oui,
puis après,
il s'aperçoit que ça coûte quand même très cher. Hein. Ben oui, ça coûte cher tout ça. Et je me souviens qu'il avait acheté un escalier pour cette maison qui était en morceaux. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce gros tas de pierres? Alors, comme il y avait une benne, j'ai dit, bah, mettez-moi tout le tas de pierres en même temps. Allez hop, on vire tout ça. Comment? C'est mon escalier qui est très ancien, mais tu complètement. J'avais même pas vu que c'était un escalier ancien. Finalement, non, mais vous savez, il achète, mais pas pour jeter l'argent. Il construit, il rebâtit.
Voilà.
Il me dit, les maisons vont rester, nous, on sera plus là. Et ça fait la joie des autres personnes, hein, en plus.
Voilà, mais il a
comme on n'est pas des bons, comment dit-on, on ne pense pas à l'argent tout de suite. Il avait acheté une maison, je me souviens, en Normandie. Mai 68, vous savez, les bombes lacrymogènes arrivaient dans le salon, je ne pouvais plus respirer. Il m'avait mis en Normandie, à Deauville, en attendant pour que j'aie le bébé. Et puis il m'a dit, je reviens, je vais chercher une tarte à la Mirabelle.
Ouais.
Bah, la tarte aux Mirabelles, je n'ai jamais vu. Il avait acheté une maison à la place, en ruine.
Au lieu d'acheter une tarte aux Mirabelles,
ah bah oui, une ruine, mais pas un truc beau, une ruine. Et puis après, on
peut... la faire construire.
Et, bah, et bien sûr, elle était... quand il pleuvait, il y avait une carrément, il fallait un bateau pour y aller. Il y avait carrément une mare autour. Et puis il disait, comme elle est belle. J'ai dit, bah oui, mais comment on va faire pour payer tout ça? Et puis finalement, on l'a revendu à un ami.
Puis il a voulu sauver le Châtelet aussi, en lançant
ah oui,
un spectacle
voyez,
qui lui a coûté une fortune aussi.
Voilà, parce que Châtelet allait devenir un garage, je sais pas quoi. Et il a mobilisé tous les gens du quartier qui sont venus et qui ont mis de l'argent. Et le Châtelet a été sauvé. Et là, il a créé W, qui n'a pas fait un mois. Parce que finalement, c'était peut-être trop tôt, je pense. C'est quelqu'un qui voit très vite les choses, mais trop avant-gardiste.
Voilà.
Et puis du coup, bah, il a donné ses droits d'auteur en compensation. Bah, personne ne fait ça, évidemment, il l'a fait.
Bah voilà.
Ah bah voilà.
Il se lance, il ne compte pas,
oui.
Et parfois...
Bah, non, mais c'est pas un financier, Jean-Jacques. Voilà. Sinon, on serait très très riche, hein, je peux vous dire. Mais non, on est comme ça. Puis nous on va pas être les plus riches du cimetière, hein, de toute manière.
Non, mais pour le coup, vous êtes retrouvés dans des moments un peu... Lui
oui.
Et vous, d'ailleurs, de déprime, hein,
oui.
Des années difficiles.
Moi, je ne suis pas déprimée facilement.
Lui, après ce spectacle du Châtelet.
Oui, il était déprimé, mais parce qu'il met tout son cœur et que c'est quelqu'un d'entier et qu'il veut toujours être bienveillant avec tout le monde. Seulement, tout le monde a profité de lui en même temps.
Voilà. Et finalement, les choses ont rebondi après, parce qu'il est devenu le partenaire de Mariti et Gilbert Carpentier.
Voilà, on était justement à la Troc en 73, 74. Et Mariti m'appelle et me dit, qu'est-ce que fait Jean-Jacques? Je dis, bah écoute, il se pose des questions, on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que c'est compliqué.
Ouais.
Et moi, je ne chante pas. Et voilà, il me dit, bah écoute, j'ai une idée, j'ai envie maintenant de faire des émissions comme des comédies musicales. Il m'en parle tellement. Dis-lui qu'il m'appelle et c'est lui qui aura la responsabilité de tous les numéros 1 spéciaux que je vais faire. Donc, il était comme un fou. Donc, on a mélangé Sylvie avec Johnny, avec Carlos, plus Brulo Iglesias avec Mireille Mathieu. On faisait des duos et des chansons exprès pour la télé.
Voilà,
ça ne peut pas exister aujourd'hui. C'est pas possible. Il n'y avait pas de promo. C'était des... Voilà, et c'est comme ça que j'ai chanté un jour Adieu les jolis foulards.
Voilà, qui vous-même, alors après les années plutôt consacrées à vos enfants, a relancé votre carrière de chanteuse. Mais c'était presque un hasard. Hein.
Mais oui, moi, dès que je fais un bouche-trou, c'est parfait pour moi. Ça se passe très bien. Et encore une fois, grâce à Brigitte Bardot, que je salue, parce qu'elle vous entend peut-être, parce que c'est elle qui devait être la partenaire de Carlos dans un numéro 1. Et puis, elle avait la grippe et Mariti m'a dit, bah, écoute, viens vite Chantal, demande à Jean-Jacques de t'écrire une chanson. Comme je sais que tu es disponible, tu n'as pas de maison de vie, donc ça sera beaucoup plus simple. Il m'a écrit « Adieu les jolis foulards » en pensant à ma famille qui était en Martinique. J'étais une maîtresse d'école qui quittait les îles pour la France. Je suis avec mes enfants, les enfants du village, tout simplement. On a pris le train, le métro. Dès que j'ai fait l'apparition à la télévision, Mariti m'a dit « Tu devrais en faire un vrai disque et le produire. » Et mon papa est décédé, il m'a donné de l'argent pour faire quelque chose pour les enfants, il m'avait dit. Il est parti, j'ai eu le temps d'enregistrer avec les petits chanteurs de Sarcelles cette chanson. J'ai fait le tour des maisons de disques, personne n'en voulait. J'ai dit « Bah ça commence bien ». Je comprends plus rien, il y a tout le public qui demande et le métier dit non. Alors je comprends rien, sauf une personne, François Dacla, directeur général chez RCA, qui me dit « J'adore cette chanson, venez chez moi et puis je vais la sortir ». On a fait 1 million de disques ensemble et 40 millions ensuite.
Et puis on peut dire, on va l'écouter, que cette chanson elle marque un tournant parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est en train de naître et que vous allez cultiver au cours des années suivantes avec Jean-Jacques Debout.
Adieu mes petits élèves de la Martinique. Je fais la classe aujourd'hui pour la dernière fois. On me renvoie vers la France, adieu la Martinique. Mais tout là-bas, je ne vous oublierai pas. Adieu les gens. écoles et les punitions. Adieu jolie farandole que l'on a dansée. Amis, chantons notre dernière chanson.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras. Si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera.
J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays.
Resterai dans nos cœurs, mademoiselle.
Adieu les jolis foulards 1975, chanson de Jean-Jacques Debout avec donc vous-même évidemment Chantal Goya qui là effectivement voilà il y a cette rencontre avec les voix d'enfants on peut dire qui va marquer toute la suite d'une
c'est
certaine façon.
C'est comme cela avec les petits chanteurs d'Aix-en-Provence ou la Sarcelle ou d'autres.
Et l'année suivante aussi, Voulez-vous danser grand-mère.
Oui, c'est grâce à François Daclave. Et en même temps que moi, il y avait les débuts de Souchon, Alain Souchon. Il y avait Woolsey, il y avait une petite jeune qui commençait, qui était Mylène Farmer, qui chantait Maman a dit, tout, voilà, l'infirmière. Et puis Michel Fugain. Vous vous rendez compte?
On avait
5
moment...
des mises en place de 100 000 disques par jour, plus de 20 000 disques ensemble. Je faisais un Daniel Gilbert, je me souviens, et elle m'avait dit, ça t'ennuie pas de dans une petite cabane de te changer? Je dis, mais non, Daniel, moi je vais n'importe où. Il y avait 4 filles avec moi. Immense! C'était Abba.
Ah, oui.
Ah bah dis donc, je savais pas que c'était... Non mais vous voyez, c'était fou.
Et alors, il y a eu un autre épisode déterminant pour la suite, ça a été l'histoire du lapin dans votre jardin.
Oui, le lapin, les enfants le dimanche, comme on habitait à la campagne, il y avait tous les chasseurs qui étaient là avec des treillis, on dirait qu'ils partaient à la guerre. Sauf qu'un jour, ils sont tous arrivés chez moi en disant, bon, on peut plus partir à Paris parce que nos pneus sont dégonflés. Il y a des gosses qui ont fait ça. Je dis, mais comment ça, des enfants? Et là, j'ai vu mon fils avec une armée de copains. Il avait 6 ans. Des bâtons, ils sortaient de la forêt.
Ils avaient dégonflé les voitures des chasseurs.
Ils avaient mis des pailles dans les valves et en avant. Bon, ils ont dit aux chasseurs, et si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tiraient dessus. J'ai dit, oh là là, quelle galère. Déjà, on peut pas faire le toit si on veut refaire les pneus. Donc, j'ai dit, viens à la maison boire un verre de vin et puis.
Vous avez été gentil là encore avec ces méchants chasseurs.
Oui, moi, je veux pas me mettre à dos tout le monde. Non, c'est pas possible. C'est trop de travail tout ça. La gentillesse, comme dit Jean-Jacques, c'est si gentil d'être simple et si c'est simple d'être gentil. Voilà.
Bon, mais il se trouve qu'il était là, Jean-Jacques aussi.
Au piano avec Roger. Il
avec Roger
un numéro 1.
Voilà.
Et tous les deux sont mis au piano. Jean-Jacques a fait directement devant les chasseurs ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et Roger a fait les couplets. Et les gosses faisaient là, 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 les gestes avec les mains. Et là, en riant, Jean-Jacques m'a dit, est-ce que tu peux faire les mêmes gestes à la télé? Je dis, bon, oui, ça m'abuse, bien au contraire.
Voilà.
Tout nous amusait. Hein.
Ouais. Alors la chanson donc, du lapin est née devant des chasseurs et des enfants.
Voilà, et quand les chasseurs viennent bredouille, ben, ils chantent cette chanson, figurez-vous maintenant. Première chanson écologique hein, quand même.
Mais voilà, après la chose importante, c'est que c'est quelques chansons merveilleuses pour les enfants. Il a fallu en faire un spectacle. Et c'est ça qui a été l'idée géniale, on peut dire, aussi, de vous, de Jean-Jacques. C'est passé un peu par Mickey aussi, entre-temps.
Oui, Mickey, parce que j'avais trouvé que la chanson que Johnny avait faite avec Sylvie et Carlos, dans un numéro 1, la musique était formidable. Et carrément, Jean-Jacques m'a dit, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, ben, on n'en fait rien, ben, on va leur faire la même chose, mais avec Mickey Mini. J'avais été voir le grand président de Disney, mais tout ça, vous savez, avec un annuaire de téléphone que j'ouvre pour savoir où ils sont. Hein.
Ouais.
C'était pas compliqué, et du coup, ça c'est...
Donc vous avez fait une parade comme ça.
Oui, puis du coup, Disney, ben, ils m'ont invité aux États-Unis. Ils ont fait les mêmes chansons en anglais. La chanson est passée dans tous les parcs là-bas. Nous, on était des invités d'honneur. Hein.
Et puis, et donc, c'est... Jean-Jacques, on peut dire, qui tout d'un coup s'est dit, mais on va en faire une comédie musicale de tout ça.
Oui, il m'a dit, j'ai une idée, je vais t'appeler Marie-Rose. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'une Marie-Rose dans mes rêves. Ben voilà, c'est tombé sur moi. Et grâce aux numéro 1 des Carpentiers aussi, parce qu'on m'a fait plusieurs numéro 1, dans une chanson, dans la chanson de Mickey, c'est Emmène-nous Marie-Rose, dis-nous Marie-Rose. Ben voilà, je me suis appelée Marie-Rose.
Et ça a été la forêt magique.
La forêt magique à l'Olympia, où on jouait 3 fois par jour. le matin à 11h, à 14h, à 17h, c'était de la folie.
Voilà, là,
puis sa dédicace le soir. Il y avait Eddie Mitchell après qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « J'en sais rien, il y a du public de partout, c'est affolant !» Et après, on a décidé d'aller au Palais des Congrès parce que c'était trop petit. Et là, Bruno Cocatrice avait ouvert sa petite lucarne et avait dit à Jean-Jacques « Elle vient d'inventer le music hall pour enfants,
voilà,
tu devrais la continuer. »
Le music hall pour enfants, ça, voilà. C'était un genre nouveau. Parce qu'il y a aussi ces échanges avec les enfants dans les spectacles
oui.
que vous avez
ah ben
si
oui,
bien
moi,
menés.
Moi,
c'était
parlais.
Pas ce qui était prévu au départ, au
non,
fond.
Non, hein. Non, pas du tout. Alors, il crie « Regarde, j'ai des belles robes, fais voir ta robe, c'est une robe qui tourne. » Enfin, c'était ahurissant, il y avait un happening entre la salle et moi.
Le succès de Bécassine, vous l'attendiez ? Vous l'aviez prévu ?
Non, parce que si vous voulez, à l'époque, Mickey a vu un tel succès que finalement Disney m'a enlevé les personnages. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette petite-là qui d'un coup nous
ah oui,
accapare.
Ah oui, qui marche sur nos plates-bandes.
Voilà,
bandes,
voilà.
Oui.
Donc Jean-Jacques leur a dit, c'est pas grave. Moi, j'ai dit, c'est l'oncle Picsou qui a repris les... parce qu'il fallait sourire en riant. Et puis Jean-Jacques m'a dit, moi, j'ai un personnage génial que j'ai adoré. C'était Bécassine, on est en 77. Et là, il m'écrit cette chanson. Et on a vu Monsieur et Madame Pinchon eux-mêmes qui sont venus nous donner la possibilité des droits. Idem pour Tintin. C'est en 82 ou 81, Hergé m'appelle à Bruxelles. Il me dit, venez, venez, je vous en supplie, venez à la maison déjeuner, je voudrais vous donner d'un Tintin, je voudrais que Jean-Jacques me fasse une chanson, comme si on dirait que Tintin n'est plus misogyne. On est allé déjeuner chez lui, et il ouvrait un grand carton, c'était son portrait par Andy Warhol. Ouais. Non, mais il y a eu des choses incroyables.
Alors voilà, les personnages se sont ajoutés les uns aux autres, et ont constitué une sorte de galaxie
oui.
Chantal Goya, Jean-Jacques Debout.
Le panda, le loup, Bécassine, le lapin, le chaboté aussi, il a été même traduit en plein de langues. C'est incroyable.
Et bien pour le jeu aussi avec les autres, d'ailleurs, participants du spectacle et les enfants, j'ai choisi la Jeannot Lapin.
Ah, bien.
Oh, Marie-Rose, voyons, 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 quelle surprise! Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin. L'écureuil c'est mon ami, il connaît Jeannot Lapin. Quant à la chouette si jolie, elle voit tout la nuit. Bonjour mes petits amis, moi je suis Jeannot Lapin.
Les enfants, vous allez chanter très fort avec moi la phrase Jeannot Lapin. Allez, je commence, on y va. Vous avez tous reconnu notre ami
Jeannot Lapin.
Il est grand et bien dodu, notre ami
Jeannot Lapin.
Non, 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 arrêtez l'orchestre. Ça ne va pas du tout. Non, regardez comment vous chantez. Mais personne ne chante devant moi. Allez, essayez de faire très fort. Jeannot Lapin, plus fort. Mais plus fort. Oh non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Encore plus fort. Ah ben c'est pas mal. Allez, on va tous ensemble le refaire. Je vais essayer avec vous, on y va. Orchestre, s'il vous plaît. Vous avez tous reconnu notre ami
Jeannot Lapin.
Il est rond et bien dodu, notre ami
Jeannot Lapin.
Il va chercher des noisettes qu'il ramène dans sa casquette pour les enfants en cachette, notre ami
Jeannot Lapin.
Entendu chanter? Voulez-vous chanter? Non, mais...
Je vous invite à danser au Monsieur
Jeannot Lapin.
Avec moi, venez dîner au Monsieur Jeannot Lapin.
Oh, merci, mes chers amis. Je ne sors jamais la nuit. Sans ma femme, mes petits lapins, moi, je suis
Jeannot Lapin.
Jeannot Lapin.
formidable, Jeannot Lapin.
Bah oui, Chantal Goya. C'est une chanson de scène. C'est vrai, chanson de scène.
Ça marche tout seul, on a l'impression. Oui. Sauf que faut savoir les conduire aussi un peu les enfants dans le.
Ah ben ça, je vais leur parler. Hein. Oui, parents comme enfants. Hein. N'oubliez pas qu'un jour Barbara m'avait dit, tu les retrouveras tous. Ça va être difficile pour toi, mais dans 30 ans, tu seras là et eux seront là. Ils seront papa et maman et tu deviendras une institution. Bah, je pense à elle tout le temps. Hein.
Et cette chanson-là, elle est toujours importante
dans vos spectacles. Oui, je la chante tout le temps. Bah, mais quand je fais un spectacle, mettons comme un, avec tous mes succès, je la mets toujours.
Voilà.
Je la mets avec tous les plus grands succès de ma carrière et elle marche tout le temps. Hein.
Parce que vos spectacles, alors il faut dire, bon, il y en a qui sont vraiment des spectacles avec une histoire et certaines chansons
le
précises.
Le Soulier qui vole, c'est une histoire.
Comme par exemple Le Soulier qui vole, qui a été le second après La Forêt Magique.
Voilà, il y a eu La Forêt Magique à l'Olympia et le premier au Palais des Congrès, c'est Le Soulier qui vole.
Que vous reprenez maintenant d'ailleurs.
Le Soulier qui vole, il va partir en tournée. Donc on a fait 3 représentations à Paris, une à Châteauroux, parce que c'est là qu'on a répété tout. À Paris, c'était tellement archi complet qu'on va revenir le 5 et 6 octobre. Et là, je suis sur Lille, Amiens, Montpellier, Marseille et Rouen. Et après Paris, il y aura toutes les autres dates. Il y a Lyon, Tony Garnier. On fait tous les zéniths de France.
Mais vous vous êtes permis aussi de reprendre certaines chansons qui n'étaient, donc on l'a dit tout à l'heure, pas dans le spectacle d'origine.
Oui, voilà. On a repris Le Lapin, bien sûr. Voilà. On a repris Le Panda. On a repris Bécassine, évidemment. Toutes les petites filles. Parce qu'il y a 10 enfants sur scène et 12 danseuses et une dizaine de techniciens. Enfin, on est pas loin de 50 avec toutes les rôles, c'est un gros spectacle.
Qui est dans ces spectacles donc, que vous avez créés, au fond, le scénographe qui conçoit, qui imagine les décors, les costumes, les couleurs
C'est Jean-Jacques. Ah oui, toujours Jean-Jacques. Et à l'époque, il allait voir Pierre Simonini, qui était un grand scénographe et qui fait les décors pour l'opéra, pour la Scala de Milan. Et ils travaillaient des nuits entières ensemble. Je vais te faire le soulier avec des yeux, le nez, la bouche. Ils dessinent des souliers. Jean-Jacques dit non, c'est comme ça. Tous les deux, c'est un travail d'équipe. Ouais. On donne pas le scénario à quelqu'un puis on s'en occupe plus. Ça marche pas. Uh-huh. Et pareil, là, on a un chorégraphe, Emmanuel Lenormand, qui travaille beaucoup sur les chorégraphies avec mes danseuses et les enfants parce que c'est pas facile. Mais là, on a une troupe d'enfants fabuleuse. On doit aller chanter au Liban, à Beyrouth, au fin juin. Parce que j'y vais depuis maintenant 25 ans là-bas.
Ouais.
Donc, on va prendre une école sur place. Il va leur apprendre les 6 tableaux les plus importants. Vous voyez, on fait participer aussi des personnes sur place. C'est important. Des écoles d'enfants. Ils sont heureux de jouer avec moi, je peux vous dire.
C'est le soulier qui vole. On peut évoquer aussi donc, La Planète Merveilleuse. Hein, ça, c'était en 1982.
Joué. Oui, je l'ai joué là, il y a 4 ans. Je les ai tous repris.
Également. Et puis, Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose.
Ça, c'est très, très beau.
D'ailleurs, d'où vient Jeannot Lapin, je crois.
Oui, c'est le plus beau. Oui. Avec tout Polichinelle, tout Venise, le loup, le papa mille pattes. Ça, c'est un des plus beaux spectacles que Jean-Jacques a créé. Du reste, ce spectacle avait été traduit aux États-Unis pour être joué au Radio City Music Hall avec moi. Et entre-temps, mon producteur est décédé, donc j'ai pas pu le faire. Mais c'est pour ça que j'étais faire toute la promotion avec Panda en anglais pour les chaînes de télévision.
Vous êtes contente toujours de remonter sur scène ?
Oh, moi, j'adore, mais vous rendez compte de la chance que j'ai ?
Un peu angoissante.
Ah non, moi, je suis trop... Là, je reviens de Kinshasa, du fin fond de... J'étais en Afrique et j'ai remarqué que tout le monde connaissait mes chansons. Booba, la chanson Booba, c'est un hymne national là-bas.
C'est
mais c'est affolant, mais je savais pas, moi. Vous vous rendez compte, j'ai la chance. Là, je vais aller à Tahiti, Nouméa, je vais partir partout.
Il y a eu des tournées plus difficiles à Madagascar, par exemple.
Oui, Madagascar, là, c'était
compliqué.
J'étais
en pleine guerre civile.
Oui, mais je disais, mais c'est pas vous qui avez les fusils, c'est mon lapin, c'est quoi cette histoire? Non, mais on a toujours des idées de remplacement et des solutions.
Vous vous intéressez aux jeunes chanteurs français,
J'en connais certains. Benabar, j'aime beaucoup.
Ah bah justement, tiens, Benabar. Oui. Il se trouve qu'il a écrit une chanson sur vos grands amis disparus.
Oui, Marie-Thie Gilbert, vu que j'aimais tellement. Il faisait partie de la famille, Marie-Thie Gilbert. C'était des personnes merveilleuses.
Alors on pourrait écouter ce petit clin d'œil à ces deux grands personnages
avec
de la télévision par Benabar.
Merci.
Déjà lavé en pyjama, qui me gratte dans la télé des Claudettes, en gras parce que demain y a pas école, Mike Brandt, Sacha Distel, playback et patte d'éléphant, roux flaquette et costume blanc, ils avaient des beaux habits qu'ils doivent regretter amèrement aujourd'hui. Ils portaient bien la moustache dans des décors pas encore kitsch, micro tenu du bout des doigts en éloignant le fil d'un geste du bras. Marie-Thie et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Quelques décors pour faire Broadway, un réverbère, un cabaret, un faux saloon, c'est l'Amérique, et des trucages préhistoriques. Ils s'appelaient presque tous Michel, Paul Narev, Jonas Delpech, Michel Fugain, Michel Berger et Michel le Forestier. Mariti et Gilbert Carpentier sont heureux de vous présenter. Attention, l'émission va commencer. Mariti et Gilbert Carpentier. Il y avait tellement d'applaudissements qu'on dirait une émission maintenant. Ambiance foxtrot, Sylvie Vartan et des danseurs partout tout le temps. Quand ils se trompaient de caméra, un petit tour et l'air, voilà. Le doigt vers l'objectif, je chante pour toi. On a tout à apprendre de Claude François. Mariti et Gilbert Carpentier.
Le studio 17 au Butte-Chaumont, qui était le lieu donc mythique des shows de Mariti et Gilbert Carpentier, Chantal Goya.
Oui, tout était en direct, tout était d'abord préparé chez eux dans leur salon, ouais, près du Luxembourg.
Ah bon, ouais, ça a commencé à la maison, comme ça, entre amis.
Toujours se passait chez eux, entre amis, et là, les idées fusionnaient, et on va mettre Chantal avec Sylvie dans les petites filles modèles. Ouah, génial, tout était possible, et tout se faisait avec beaucoup de bienveillance, d'amitié, voilà, on était tous autour d'une table, et on s'appelait les uns les autres. Souchon, tu es libre? Ouais, je viens tout de suite, qu'est-ce que je fais? Ben, Jean-Jacques, tu vas me faire un curé. Génial, je fais le curé. Ou alors Thierry Luron, qui était souvent mon partenaire de la télévision, c'est mon petit frère de la télé. Il était toujours avec moi, il faisait le chef de gare, moi j'étais dans une cabine de train. Non mais c'était fabuleux parce que tout le monde jouait le jeu et tout le monde était heureux. Il n'y avait pas de promo, il n'y avait pas d'histoire de promo, c'était des chansons inédites.
C'était un grand ami Thierry Luron. Hein.
Thierry est un grand ami et je le regrette beaucoup comme Coluche. Ce sont des gens que j'ai tellement aimés et qui nous manquent aujourd'hui.
Voilà, et vous en avez évidemment croisé, côtoyé beaucoup d'autres, on ne peut pas tous les évoquer, mais je pense par exemple, justement, vous les avez cités sans doute tout à l'heure, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, Barbara.
Oh, Barbara, elle était formidable, elle venait à la maison. Un jour, voilà. Jean-Jacques était, il avait invité à dîner, il avait oublié de venir, elle était partie, je ne sais pas, je crois au Châtelet où il y avait un problème. Et elle me dit, mais il est où notre ami? Je dis, ben il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller dîner toutes les deux, on va tellement rire, on riait des heures entières. Barbara, c'est une personne, on croyait qu'elle était triste, mais elle était très joyeuse.
Elle était très joyeuse et drôle,
oui,
c'est ce qu'on dit souvent de la vérité de Barbara.
Oui, oui.
Voilà. Et puis, alors, il y a eu des années peut-être un peu plus difficiles après cette émission dont on a beaucoup parlé.
Bah, l'émission, elle est totalement démodée, elle n'existe plus.
Voilà, le jeu de la vérité. Et en fait, les spectacles ont repris...
Tout a repris, le public.
Tout a fait aussi bien par la suite.
Oui, le public a toujours su que j'étais quelqu'un de franche, de direct, et puis que j'ai jamais triché, et que j'étais toujours présente pour les enfants. Et finalement, le public est au rendez-vous, et ce sont tous les petits d'hier qui sont les parents d'aujourd'hui. Et je ne sais jamais comment les remercier parce que mes spectacles sont toujours aussi beaux grâce à Jean-Jacques Debout et à toute l'équipe, parce qu'on peut pas faire ça tout seul. Et on a une belle tournée et on a beaucoup d'artistes autour de nous et ça me fait vraiment plaisir. Et vous savez, c'est important au bout de 40 ans de carrière d'être toujours là.
Et vous en avez d'ailleurs créé d'autres par la suite. Il faut dire l'étrange histoire du château hanté,
oui,
le grenier au trésor,
bien sûr.
Les aventures fantastiques de Marie-Rose, ça c'est le dernier mais qui reprend...
Oui, c'était un spectacle de théâtre, non, avec 15 chansons nouvelles quand même. Jean-Jacques avait tout écrit de nouveau. Et puis ce soulier qui vole que j'y tenais tellement parce que c'est pour moi le spectacle le plus mythique. C'était le premier grand spectacle pour toutes les familles. Et Roland Hubert, qui était notre producteur à l'époque, me disait à Jean-Jacques, je veux la plus belle chose au monde, débrouillez-vous, c'est pas une question d'argent. Quand vous avez un producteur qui vous met cette phrase et que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, c'est très important pour un créateur et un compositeur et puis tous les gens qui étaient autour de nous. Et
on pourrait l'écouter d'ailleurs, la chanson du soulier qui vole.
Avec plaisir, oui, hein, bien sûr.
Quelle jolie fête, n'est-ce pas, pour le soulier. Et vous voyez mes enfants, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Et je vais tous vous emmener avec moi dans ce joli soulier qui vole. Alors venez, venez tous avec moi.
Partir dans un drôle de soulier qui vole, grâce aux ailes d'une cigale.
Le soulier qui vole, c'est donc évidemment Chantal Goya. J'ai sous les yeux là, les dates de vos spectacles, Chantal Goya, je leur dirai à la fin, mais là, on en a déjà jusqu'en mars 2020.
Hein. Ah oui, oui, voilà. On a décidé de faire une très belle tournée pendant 2 ans. Je suis avec un jeune producteur qui m'aide beaucoup et qui a tout de suite cru. Voilà. Et qui a voulu respecter tout le travail de Jean-Jacques Debout, ce qui est très important, un vrai soulier qui vole. Et j'ai gardé tous les costumes d'avant. Et vous savez, les petites filles qui étaient en 1980 sont grandes aujourd'hui. Parmi elles, il y en a une qui s'appelle Rebecca Hampton, qui joue dans Plus belle la vie.
Oui.
Et ben, j'ai sa robe sur scène avec une petite fille de 8 ans qui la met. C'est un très beau recommencement. Ça continue, quoi, avec la génération d'aujourd'hui.
Bah oui, c'est formidable. Et donc, Jean-Jacques Debout, je ne sais pas s'il suit les spectacles, il vient souvent.
Il va venir à Lille parce que c'est une scène importante et oui, c'est là où nous allons filmer le spectacle.
Oui.
Mais il est là souvent, mais pas non plus tous les jours. Hein,
bah non, parce qu'il faut qu'il s'occupe de ses collages en même temps.
Oui, il fait une exposition de collage au mois de juin dans une galerie à Montmartre, la rue Véron, la galerie Véron. Et c'est très beau parce que Prévert, il a eu la chance de connaître Jacques Prévert qui lui a appris à faire des collages. Donc maintenant, il a une série de tableaux magnifiques où il a des très beaux thèmes et c'est son invention, son imagination.
Voilà, ce personnage très, très poétique, on le comprend aussi en lisant sa vie, mais en lisant vos livres aussi. Et
oui,
vous racontez vos...
Il faut qu'on fasse un livre tous les deux maintenant.
Oui, voilà, c'est ça.
Ensemble. Hein.
Et puis, vos petits-enfants, ça
va,
ils connaissent vos chansons
Bien sûr, au début, quand j'ai repris toute ma carrière, c'était pour que mes petits-enfants me voient chanter, comme tous les petits-enfants de la Terre, hein, comme tout le monde. Il y en a un qui est dans la cuisine ou dans la restauration, l'hôtellerie, l'autre dans les animaux. Et ma fille, elle est justement photographe par iPad. Elle fait des expositions dans le monde entier. Et mon fils, il est peintre. Non, mais ils n'ont pas du tout été dans la musique et dans le showbiz.
Ils n'ont pas cru, comme beaucoup d'enfants de chanteurs, qu'il faut être chanteur soi-même impérativement.
Mais oui, puis c'est pas leur univers. Je crois qu'il m'a tellement vu me battre tous les jours qu'ils ont dit c'est terrible. Il y en a un qui t'adore un jour et après il t'aime plus. On ne comprend plus rien. C'est pas grave.
Bon, eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie, ça me fait trop plaisir.
Et nous donc. En plus, vous m'avez donné une idée d'une chanson que je ne connaissais pas, en fait, de Dalida.
Ah oui, ouais. Ben oui, avec...
Comme disait la Miss Tinguette.
Ben oui, c'est une chanson que Jean-Jacques a écrite avec Pascal Sevran, justement.
Voilà, le regretté
Pascal. Elle représente
Pascal.
Vraiment le musical et notre Dalida que j'aime tellement, qui était tellement douce, tellement gentille. Et moi, j'ai tellement aimé cette femme aussi. Ça me fait plaisir.
Alors, on finit par un petit coup de chapeau à Dalida.
Absolument.
Et puis après, je redonne toutes les références pour Le soulier qui vole.
Ah ben avec plaisir, merci.
Merci, à bientôt Chantal Goya.
Merci.
C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui roucoulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis italienne, de naissance égyptienne. C'est vrai. Fina Cléopâtre, Ménilmontant, au cave du Var, Ticon. Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
On dit que c'est mon frère qui chante quand je suis en vacances.
Pas vrai, pas vrai.
Je préfère les chansons. Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Moi tout ce que je veux, c'est que l'on m'aime un peu, et je l'avoue, je suis comblée. Depuis que je suis née, depuis que j'ai chanté, j'ai des amoureux par milliers. On dit de moi que certains soirs je joue Sarah Bernard.
C'est vrai, c'est vrai.
On dit que mon meilleur copain c'était Yard de Chardin.
C'est vrai, c'est vrai.
Moi j'aime les ritournelles, l'intellectuel, parole et le disco aussi. Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait.
Comme disait la mistinguette Dalida dans une chanson de Jean-Jacques Debouche, choisie par mon invité ce matin, donc Chantal Goya. Vous pouvez donc également la retrouver en direct, Chantal Goya, à Amiens le 27 avril, à Lille le 28, et puis au mois de mai, elle sera à Montpellier, à Marseille, à Rouen, et je le rappelle aussi, les 5 et 6 octobre prochains à Paris, sur la scène du Palais des Congrès. Rosemarine, l'irrésistible pièce de Fritz Kreisler, interprétée d'ailleurs par Kreisler lui-même. Je dois vous dire, comme j'aime beaucoup ce morceau, j'ai recherché à peu près toutes les versions possibles, et finalement la meilleure, c'est la sienne, c'est celle du compositeur. Il n'y a pas de hasard.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je voulais vous dire aussi que hier soir, je suis enfin allé voir le Postillon de Longjumeau, auquel j'avais consacré toute une émission. J'ai d'ailleurs retrouvé là-bas des auditeurs et je ne suis pas mécontent de les avoir envoyés voir ce spectacle, parce que c'est un spectacle vraiment magnifique dans la mise en scène de Michel Faux, qui joue très subtilement avec les conventions de l'opéra. Vous savez, le chanteur, face publique, le côté un peu figé et monumental d'un opéra, d'un spectacle chanté, qu'il rend très très beau visuellement, et où il insère toujours un petit grain de folie qui lui est propre, notamment lors de ses propres interventions, d'ailleurs en diva, évidemment. Michel Faux traverse plusieurs fois la scène, on rit beaucoup, et surtout on entend de la très belle musique avec les deux chanteurs, Michael Spyer, ce ténor américain dont la diction devrait faire pâlir n'importe quel chanteur français, tellement on comprend chaque syllabe, Florie Valiquette, la soprano, Franck Le Guérinel, merveilleux acteur-chanteur lui aussi, et puis le chef Sébastien Roulant, pour une fois, dose juste l'orchestre comme il faut pour que ça ne couvre jamais les chanteurs. Très bon orchestre de l'opéra de Rouen. Les costumes de Christian Lacroix jouent aussi sur les toiles peintes au fond un peu kitsch d'Emmanuel Charles, avec la lumière. Le mélange est parfois extraordinairement délicat, poétique, notamment dans le troisième acte. C'est vraiment un spectacle que je suis donc très heureux de vous avoir recommandé après coup. Et je vous dis vraiment, Michel Faux à l'opéra, dans des opérettes et des opéras comiques, on en redemande pour l'occasion et pour le saluer. On écoute, tiens, ce grand air du Postillon qu'on n'avait pas passé lors de notre émission consacrée à cette œuvre.
Mes amis, écoutez l'histoire d'un jeune et galant postillon. C'est véridique, on peut m'en croire. Et connu de tout le canton. Quand il passait dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en troupe avec lui. Oh, 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 qu'il était beau le postillon de Longjumeau.
postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau. Maintes dames de vos parages, en l'absence de son mari, parfois se mettait en voyage pour être conduite par lui. Au procédé toujours fidèle, on savait qu'à droit postillon, s'il versait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon. Oh, oh, un équipage. Voilà qu'un soir il est parti. Depuis ce temps dans le village, on n'entend plus parler de lui. Mais ne déplorez pas sa perte, car de l'hymen suivant la loi, la reine d'une île déserte de ses sujets l'a nommé roi.
La ronde du postillon chantée par Henri Leguet sous la direction de Georges Tsipin.
Elvira
su ya, ya, ya. Vámonos pa' regla, con el vira que no se vira. Vámonos pa' regla, con el vira que no se vira.
Et voilà, on se quitte sur un petit air de cha-cha-cha, le grand orchestre de Julio Gutiérrez à la Havane au milieu des années 50. Et la semaine prochaine, on ne sera pas à la Havane, mais à Paris, sur la butte Montmartre, avec mon invité Philippe Dulé, ainsi que Michou, en personne, à ne pas rater.
À réécouter sur francemusique.fr.